Pardon pour le retard. Nous sommes toujours dans la période monarchique. Mais avant de continuer et de prendre le livre des chroniques, on m'a posé quelques questions à propos des examens. Si vous désirez ou si vous devez passer un examen dans cette matière que nous sommes en train de traiter, c'est-à-dire ce qu'on appelle les livres historiques ou premiers prophètes, bien vous choisissez quelque chose qui vous a frappé, qui vous a intéressé. Ça peut être un texte parmi ceux que nous avons plus ou moins parcourus, survolés en tout cas. Ça peut être une idée, une réalité que vous avez peut-être découverte, ou bien qui vous pose encore question. Et alors, vous préparez quelque chose à ce sujet, vous pouvez l'écrire ou pas l'écrire, c'est comme vous le désirez. Vous pouvez me transmettre un écrit ou ne pas me le transmettre, c'est aussi comme vous désirez. Et au début de la session d'examen, je prendrai un ou deux jours, une partie de la journée bien sûr, pour interroger les personnes qui le désirent. C'est-à-dire que c'est une conversation à partir de ce qui vous a intéressé. Il faut toujours partir de l'intérêt personnel, parce que là, il y a quelque chose à apprendre et quelque chose qui se fait jour en vous, et donc c'est important de le creuser. Et alors, à partir de là, on peut ouvrir parfois un peu les réalités pour voir comment vous êtes entré dans ce passage de l'écriture, un long passage d'écriture. Et vous voyez qu'il s'agit toujours d'une histoire, nous appellerions ça aujourd'hui parfois une histoire romancée. Je n'aime pas beaucoup ce terme de romancé parce que ça veut dire que c'est pure fiction. Non, ce n'est pas pure fiction, mais c'est une perception de la réalité, mais de l'intérieur, vue de l'intérieur. Il y a une évolution, mais ce n'est pas l'évolution des événements extérieurs qui n'intéresse pas immédiatement les auteurs bibliques. Ce qui intéresse les auteurs bibliques, c'est l'histoire intérieure, c'est-à-dire l'histoire d'une alliance de l'homme, de l'humanité, avec Dieu, à travers le peuple d'Israël et ses vicissitudes. Alors, nous nous acheminons dans une période difficile, qui est l'échec de la royauté. On a aspiré, depuis le livre de Samuel, on aspire, même les juges, on aspire à une royauté, c'est-à-dire on aspire à une certaine unité pour être ensemble protégés contre les ennemis du dehors et contre les ennemis qui menacent toujours l'implosion du dedans. Et nous avons vu donc que depuis Josué, avec le chapitre 24e de Josué qui montre une première réunion de tout Israël, mais vous voyez que tout Israël, c'est déjà une projection vers l'avenir, et le livre des juges où on voit bien qu'il n'y a pas encore d'unité, et chaque tribu essaie de s'en sortir avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les juges qui sont institués en quelque sorte par Dieu. Et alors nous avons vu la longue histoire de la royauté, l'accession progressive à la royauté avec les différents essais, Samuel, puis Shaoul, puis David et Salomon, et tous ceux qui ont succédé jusque, après Salomon évidemment, jusqu'à cette rupture entre le nord et le sud. Et on a laissé le nord en 721 se joindre à la Syrie, et il n'y a plus que le petit territoire de Juda avec Jérusalem. Et tout est centré, au fond, sur la ville de Jérusalem. Et la royauté de David et de Salomon, cette royauté qui semble extraordinaire, cette royauté consiste à un tout petit territoire. Mais ce tout petit territoire va avoir une influence capitale. À partir de l'échec, à partir de la suppression de tout ce que le Seigneur avait donné. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni, nous dit Job, le livre de Job. Mais de fait, c'est quelque chose d'important. À partir des échecs, à partir de l'échec, comment Dieu travaille-t-il ? Il travaille toujours à l'intérieur de ce que l'homme lui donne. La volonté de Dieu, c'est toujours en collaboration avec les capacités actuelles de l'homme. Nous avons vu donc qu'il y avait deux livres des rois, David, Samuel, puis Salomon, livre des rois, et puis toute la suite. Et nous avons vu que l'auteur de cette histoire, depuis Josué, était ce qu'on appelle l'école ou l'historien deutéronomiste. C'est-à-dire qu'il a écrit à partir de ce qu'on a appelé la réforme deutéronomiste de Josias, avec un code rénové, un code d'Israël revu et corrigé, et dont on voit dans le livre des rois l'histoire de la découverte. C'est pour créditer en quelque sorte Josias de sa réforme. Mais nous avons vu que la réforme de Josias a été mise en question par sa mort prématurée. Alors, le problème s'est posé aux gens, mais est-ce que cette réforme de Josias venait bien de Dieu ? Ou bien est-ce que c'était lui-même qui avait envie de reprendre les choses en main ? Et donc, sa mort violente à Megiddo a véritablement fait problème. À telle enseigne que le mot Megiddo revient jusque dans l'Apocalypse avec le Har-Mageddon, la plaine, mais c'est une montagne, c'est devenu une montagne, la plaine de Megiddo, qui est comme l'image du dernier cataclysme. C'est comme ça que souvent on le voit, l'Apocalypse. Mais avant d'aborder tout cela, il y a un doublet de cette histoire deutéronomiste. Car il y a deux livres qui s'appellent les livres des chroniques, Divrei Hayamim en hébreu, c'est-à-dire les livres, ou plus exactement les actes, les paroles, parce que la parole est toujours un acte, pas dans la Bible, les actes ou les paroles des jours. Mais ce terme de chronique, le livre des chroniques, ne doit pas nous faire illusion. Il ne s'agit pas avant tout d'une chronologie. Il y a bien sûr une succession de générations, mais les dates importent très peu et elles sont éminemment fantaisistes, surtout dans ce livre. Et il y en a qui ont essayé de mettre d'accord la chronologie des livres des rois avec la chronologie des livres des chroniques, et ça ne va pas. Bon, il y a bien une succession qui est probablement, approximativement disons, la même, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ce qui arrive au jour le jour. C'est l'histoire journalière, c'est-à-dire l'histoire quotidienne, nous pourrions dire l'évolution ou la révolution intérieure. C'est bien cette histoire intérieure qui apparaît, mais dans ces livres des chroniques, comme l'auteur n'est plus celui qui a pris l'esprit de la réforme de Josias, qui était donc très sensible à la réalité sociale, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'unité se vive dans le peuple et que l'on poursuive ensemble le bien commun, ça c'est l'intention historienne du livre, des livres que nous avons vus jusqu'ici. Mais il y a une autre école qui est sortie des Lévites. Les Lévites, c'est toute une histoire. Les Lévites font partie du personnel sacré, du personnel du temple, au service de la communauté, bien sûr, mais au service de Dieu, au centre de la communauté, dans le temple de Jérusalem. Mais ce temple a disparu. Il a été pillé, et les richesses ont été emportées à Babylone. Ce temple a été pillé. Et après l'exil, on a voulu reconstruire le temple. Mais après l'exil, la communauté était en quelque sorte divisée, mais d'une autre manière. Il y avait ceux qui étaient partis à Babylone, qui avaient subi l'exil, qui avaient vécu en terre étrangère, en terre païenne. Et donc le fait de vivre en terre païenne a posé évidemment la question religieuse. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce que c'est vrai ce que prétend Israël, que Dieu est unique et qu'il est personnel et qu'il a fait une alliance avec le peuple, alors qu'on vit au milieu de populations qui n'ont pas souci de ce Dieu unique, qui ont différents dieux. Et donc la question était constamment à l'ordre du jour, pourrait-on dire, avec toujours cette réaction qui est double, ou bien on se ferme sur soi-même et on défend sa religion, ou bien on s'ouvre à la modernité, on s'ouvre au paganisme, et on discute avec. Donc vous voyez, deux mentalités. Et cette mentalité, cette double mentalité, est toujours référée à la présence divine. Alors, ceux qui reviennent d'exil, qui étaient généralement des leaders, leaders politiques, leaders religieux aussi, des gens qui réfléchissaient, des scribes, comme on va les appeler, et des gens habiles à faire des armes surtout, c'était pour ça qu'on les mettait dehors. Ils pouvaient travailler pour l'étranger, mais ils ne faisaient plus de difficultés dans la capitale. Et puis il y a les gens qui sont restés dans le pays. Et ceux-là qui ont continué à vivre leur yavisme, leur religion, qui ont vécu comme ils le pouvaient, parce qu'il y avait des difficultés économiques, il y avait des difficultés politiques aussi. Et ceux qui étaient restés à la maison, ou bien c'était devenu de grandes familles, de grands propriétaires, ou bien des pauvres. Et quand, petit à petit, des gens sont revenus d'exil pour retrouver leur terre. On a fêté, il y a deux jours, les Palestiniens, la fête de la Nakba. Et donc, il y a eu des échauffourées. Eh bien, c'est un peu ce climat-là qu'il faudrait voir présent dans les livres que nous allons voir maintenant, après l'exil. On voudrait retrouver sa terre, mais la terre appartient à d'autres maintenant. Est-ce qu'on peut encore dire « ma terre » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, vous voyez, il y a toutes sortes de tensions dans le peuple Il va falloir, si on veut rétablir une certaine unité, est-ce qu'il faut rétablir l'unité d'avant ? Parce qu'on a vu l'échec du monarchisme. Ou bien faut-il voir une autre unité, une unité vers l'avant, une unité vers l'avenir. Et c'est justement ce que les prophètes, Isaïe, surtout la seconde partie du livre, depuis les chapitres 40 à 55, qui ont été écrits dans la deuxième partie de l'exil, Jérémie, Ézéchiel, qui sont des prophètes qui ont vécu l'exil et qui en disent quelque chose. Car il n'y a pas de livre qui décrive la vie en exil. On peut voir cela qu'à travers les oracles des prophètes. Donc il faut donc essayer d'avoir en tête, mais ça c'est le sujet que nous prendrons l'an prochain, le prophétisme ou la séquence des prophètes, disons plutôt, parce que le prophétisme n'est pas du tout une institution, mais la prophétie à travers Isaïe, à travers Jérémie, à travers Ézéchiel, puis à travers Daniel. Et tous ces grands prophètes, ces prophètes écrivains comme on les appelle, sont tendus vers l'avenir. Et c'est l'idée de messianisme qui va travailler le peuple. Et cette idée de messianisme va, au début, c'est probablement être le désir de retourner à la royauté d'autrefois. Donc, David et Salomon vont rester des références, mais est-ce que, ces références sont des références matérielles qu'il faut traduire sur le plan politique et économique, ou bien est-ce que ce sont des références spirituelles tendu vers un avenir qui n'arrivera jamais, tel qu'on l'imagine en tout cas. Et si vous voyez par exemple pratiquement tous les prophètes qui ont été revus et corrigés après l'exil, ils ont tous cette pensée messianique. Car le messianisme, même s'il y a des images de retrouvailles de ce qui était autrefois la grandeur de David et de Salomon, le messianisme est un courant qui devient vraiment, vous pouvez le voir dans les psaumes, un courant spirituel. On attend quelqu'un, quelque chose, on attend d'être transformé, et c'est tout ce, je dirais, ces amalgames, ces différentes pensées religieuses qui petit à petit vont se cristalliser vers un Messie. Mais attention à ces idées de Messie, nous disons le Messie, le Christ, c'est évidemment Jésus. Mais le Messie n'est pas d'abord une personne. Le Messie est d'abord et avant tout une transformation de la mentalité du peuple. Et cela, c'est le creuset dans lequel va se former l'entre-deux testaments. Il va permettre à Israël de passer petit à petit à ce que nous appelons, nous, le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qui va faire le trait d'union ? Eh bien, à côté de l'école deutéronomiste, plus intentionnalisée, dirais-je, du côté de la société, retrouver la société, c'est toujours l'idée fondamentale, il y a l'idée religieuse, le service du temple, la liturgie, qui, puisque la monarchie n'a pas réussi, on va essayer du côté religieux, peut-être que ça réussira. Et donc va s'établir petit à petit une sorte de caste religieuse. nous appellerions cela aujourd'hui le cléricalisme. Les gens qui savent, les gens qui connaissent quelque chose de Dieu que le peuple ne connaît plus parce qu'il est passé à un syncrétisme de façon assez courante maintenant, et donc essayer de retrouver le service du temple d'antan, d'autrefois.
Oui
et non, parce que ce service du temple va aussi évoluer. Et c'est une période que l'on ne connaît pas tellement. Je vous renvoie au cahier évangile numéro 87, hein, le livre des chroniques, justement, de Philippe Abadi, professeur à Lyon, professeur d'écriture sainte à Lyon, qui essaie de montrer très bien la différence qu'il y a entre les livres des chroniques et les livres des rois. C'est la même matière. Et pourtant, grosso modo, l'ordre est le même. Mais quand on lit l'un en face de l'autre, de manière synoptique, on voit qu'il y a une très grande différence de mentalité. C'est que David et Salomon ne sont plus des rois comme des autres nations. Ils sont en quelque sorte des rois religieux. Ils deviennent, David le fondateur du culte, et Salomon celui qui a mis en œuvre le culte. Et il y a évidemment tout un groupe de personnes que l'on appelle les prêtres, qui sont une caste. Une caste qui va prendre petit à petit un peu le pouvoir, avec les Lévites. Les Lévites, ce sont les personnes de la tribu de Lévi. Et donc, ils sont prêtres de père en fils. Mais ça va être un sacerdoce à deux niveaux. La caste sacerdotale, qui du temps de Jésus va donner ce qu'on appelle les grands prêtres, qui ont un peu les rouages de la société religieuse en main, et les Lévites, qui sont des prêtres de seconde zone, des sortes de diacres, qui ont surtout en main la chorale, hein, ce sont surtout des choristes, et si vous lisez le livre des chroniques, vous verrez que ces Lévites ont une place importante dans le service du temple. Les portiers, et vous voyez, un certain nombre, ceux qui immolent, des bouchers, et beaucoup de ces Lévites sont des gens qui ont été récupérés lorsque, en 721, Sargon II a pris la Samarie, ils sont descendus à Jérusalem, plutôt ils sont montés plutôt vers les montagnes de Jérusalem, ils sont allés à Jérusalem, et là ils ont été repris, mais comme prêtres de seconde zone. Et vous sentez très bien qu'il y a aussi cette influence cléricale qui apparaît très fort dans les livres des chroniques, et cette influence cléricale va en quelque sorte reprendre à son compte les idées de royauté, c'est-à-dire des idées de pouvoir. Et il ne faudra pas s'étonner Jésus, lorsqu'il parle du bon pasteur, et qui nous dit qu'avant, c'était des bandits et des voleurs. Celui qui entre dans la bergerie va à un autre endroit que la porte, ce sont des bandits et des voleurs. Ceux qui sont venus avant moi, dit-il, ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants qui ont fait une sorte d'amalgame entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et qui se sont fait, petit à petit, accepté d'abord par les Perses, puis plus ou moins selon les dirigeants par les Grecs, et finalement par les Romains. Et on arrive d'ailleurs à des histoires, si vous avez lu Flavius Josèphe, La guerre des Juifs par exemple, vous verrez que c'est une histoire qui n'est certainement pas meilleure que ce qu'on vit dans ce monde aujourd'hui. Et donc c'est les livres des chroniques montrent juste un point de vue religieux. Et donc les deux livres sont centrés sur le temple et sa reconstruction. Les livres des chroniques sont beaucoup plus tardifs que les livres des rois. Ils datent vraisemblablement de la fin de la période perse, c'est-à-dire on date généralement vers 350 avant Jésus-Christ, donc 4e siècle. Et donc c'est une relecture de l'histoire royale à la sauce religieuse. Le centre n'est plus la politique, le centre c'est le temple. Le temple est donc la vie de tous les jours, car le véritable temple c'est le peuple d'Israël. Et donc il faut que ce peuple d'Israël vive au diapason de sa liturgie, même si la liturgie demeure toujours prophétique. La liturgie n'est jamais exactement ce que l'on vit. Il y a toujours une tendance eschatologique, souvent, mais prophétique. C'est ce qu'on voudrait vivre. Et vous voyez bien, dans beaucoup de psaumes, il y a une sorte d'exagération. On dit ce qu'on fait, mais au fond, on dit ce qu'on voudrait faire. Et donc, c'est une époque où tout cela, toute cette littérature va être reprise, réécrite en grande partie et unificatrice. Et donc la Bible telle que nous l'avons est une sorte de produit de cette expérience d'après l'exil. Si vous voulez prendre un peu le pouls de cette réalité-là, vous pouvez lire, mais il faut les lire toujours avec dans la tête les livres de Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, mais vous pouvez lire le petit livre d'Éloi Leclerc, qui a été édité la première fois, je crois que c'est en 1980 ou 70, attendez, 76. Le peuple de Dieu dans la nuit, qui vient d'être réédité en 2009. Éloi Leclerc, vous connaissez, le grand écrivain franciscain, qui a écrit de très très belles choses, Ancien ou Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est peut-être celui qui nous fait percevoir l'expérience spirituelle de l'exil. Le peuple de Dieu dans la nuit. Aux éditions franciscaines, je crois qu'il y a deux éditions, il y a l'édition franciscaine et une autre. Oui, et d'Esclée de Brouwer. Bon. Ça vous donne bien le climat d'une réalité qui n'est jamais touchée dans les livres que par la bande. Car on ne nous décrit pas l'histoire de l'exil. Mais il faut la découvrir à la fois ce qui se passe dans ceux qui sont restés sur place et dans ceux qui sont allés en exil avec Ézéchiel. Ézéchiel a participé à la réalité de l'exil. Et Ézéchiel nous décrit, non pas d'une façon extérieure comme nous le ferions aujourd'hui, mais il nous décrit de l'intérieur comment il a vécu et le départ en exil et la chute de Jérusalem. Chapitre 24 d'Ézéchiel. Donc venons-en maintenant à ce livre des chroniques, donc qui est composé bien après l'autre. Et évidemment qui suit l'autre, on le voit bien. mais qui ajoute quantité de textes. D'abord, et c'est la première chose qui frappe, c'est que le livre des chroniques commence par des généalogies. Et quand Saint Matthieu va commencer son évangile par des généalogies, c'est très bien à quoi il se réfère. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des prêtres, de l'Ancien Testament, il sait très bien qu'il s'inspire de ce qui est dit dans les livres des chroniques. Dans les livres des chroniques. C'est un tableau d'une reconstruction du service du temple sous l'époque perse. Mais avec la nostalgie de ce que c'était, c'était ce qu'on imagine que c'était du temps de David et Salomon, et avec une sorte de prospective eschatologique, ce que ça devrait être. Et si vous voyez par exemple les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, vous voyez qu'il y a la reconstruction du temple, mais ce temple est un temple mythique. C'est une sorte de perception symbolique de ce que doit être le temple qu'est l'humanité. Et donc cette mentalité sacerdotale de reconstruction du temple, qui est plutôt conservatrice, traditionnelle, mais qui voit bien qu'il faut aller de l'avant aussi, que ceux qui reviennent et qui ont vécu un autre judaïsme que celui de la capitale, qu'il y a une tension à vivre et qu'il y a des dépassements à faire et une évolution à consentir. Et c'est tout ce travail-là que vous percevez dans les livres des chroniques. Donc, on commence par, le livre des chroniques commence par Adam. Ah oui. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Yered, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé, Sem, Cam, Japhet. Et on vous raconte tout ce que l'histoire des patriarches racontait déjà. En résumé, pourquoi faire la généalogie? Ah, c'est pour montrer l'unité du peuple. Et ce peuple, le peuple d'Israël, est un peuple qui est rattaché à Adam. Donc il a une vocation universelle. Même si c'est un peuple particulier, il a une vocation pour le monde entier. Une vocation adamique, une vocation cosmique en quelque sorte. Ah, je dis bien cosmique, parce que le temple va être aussi l'expression du cosmos. Entrer dans le temple, c'est entrer dans la création de Dieu. Donc le temple n'est pas une maison, le temple, finalement, c'est l'univers entier. Et donc, il va y avoir dans le temple et dans la reconstruction du temple un certain nombre de symboles qui vont universaliser ce qui était au départ très particulier dans l'expérience d'Israël. Et voilà, on va vous raconter toute l'histoire, Sem, Cam et Japhet, puis les Sémites, les Ismaélites, etc., etc., etc. Et on va en arriver assez rapidement d'ailleurs à Judas. Judas. Pourquoi Judas? Ben parce que Judas est devenu le centre. Et Judas maintenant porte une vocation, je dirais, plus moderne, c'est une vocation messianique. Judas et le temple que l'on va reconstruire vont être le signe de l'unité, non plus seulement pour Israël, mais pour le genre humain. Si bien que Jérusalem est le nombril du monde. Et le temple est le lieu par lequel il est vivifié. Et dans le temple de Jérusalem, on va trouver la surabondance de Dieu qui est présent à son peuple et qui l'a fait traverser l'exil et qui lui donne une espérance. Mais l'espérance va toujours plus loin que ce qu'on reçoit. On demande des choses, mais on ne reçoit jamais exactement ce qu'on demande. Parce qu'on demande trop peu. Et que Dieu donne trop. Il donne toujours trop. Il donne toujours en surabondance, mais pas ce que nous voudrions. Nous sommes trop mesquins. Nous voulons toujours pour nous. Alors que notre vouloir doit s'ouvrir à la présence divine. Alors voyez, on arrive tout de suite à Judas, et ces généalogies vont marquer la continuité du travail de Dieu à travers la vie qui se transmet. Au fond, cette présence de Dieu se découvre dans la vie que l'on transmet de père en fils. C'est la vie qui véhicule la présence divine. Et puis, Judas, puis la maison de David, évidemment. C'est évident. Et puis alors, on va, à partir de la maison de David, on va vous parler des 12 tribus d'Israël. Mais les 12 tribus d'Israël, à ce moment-là, oui, ce sont des circonscriptions de l'Empire perse, hein. Ce ne sont plus vraiment les 12 tribus, mais il y a toujours l'ambiance est viscérale, tribale. Et donc, on va vous parler de toutes les tribus d'Israël, et on va évidemment arriver à la tribu de Lévi. La royauté est en train de passer au sacerdoce. L'ascendance des grands prêtres, et là, on souligne, hein, toute la descendance de Lévi, je suis au chapitre 5 et 6, les chantres, voyez l'importance de la louange dans le temple, les chantres, la constitution des chantres, les autres lévites, et puis, ah oui, parce qu'il y a deux lignes sacerdotales, il y a la ligne d'Aaron, qui va être reprise en charge par Tsadok, à l'époque de Salomon, et Éviatar. Il y a deux lignes sacerdotales, comme vous avez, hein, les sunnites et les chiites dans l'islam. Ce sont deux tendances, mais deux tendances qui s'opposent parfois. Les vieux, et les conservateurs et les progressistes. Ces tensions existent toujours. Et leurs habitats, ils sont dans des endroits différents, dans des régions différentes. Et puis on vous parle des tribus du Nord, et puis finalement des deux tribus qui avaient été des tribus rivales, hein, Benjamin et Judas à Jérusalem. Là, nous avons vu avec Shaoul, Benjamin, et puis avec David, hein, Judas, Jérusalem. Oui, c'est une reprise de l'histoire, mais suivant un autre angle. Et sur ces entrefaites, on arrive au chapitre 9, où on parle de Shaoul. Mais Shaoul est rejeté. Et comme le donne très bien, je vous ai repris cela. Attendez, c'est où ? À la page. Voilà. À la page 112 du syllabus, un plan possible des livres des chroniques, j'ai repris, ce n'est pas seulement celui de Abadi, c'est un qu'il a repris aussi à d'autres, il a mis ensemble. Les chapitres 1 à 9, c'est Israël sur sa terre, la généalogie. Israël est là depuis toujours. Il vient d'Adam. Et donc, il a une vocation pour le monde entier. Et cette vocation est de type religieux. Et puis, hein, c'est Israël sur sa terre, l'importance d'une terre. S'il n'y a pas de terre, du purement spirituel, ça n'existe pas dans la Bible. Le pur spirituel, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un substrat, il faut qu'il y ait une terre. Sinon, il n'y a rien qui se passe, ou bien il se passe des idéologies. Il faut toujours une réalité sensible qui pose question, par la manière même dont cette réalité sensible se donne, apparaît, dans le rite notamment, qui posent question pour qu'on aille voir qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie quand un enfant sort du ventre maternel et qu'on l'a bien lavé, pourquoi est-ce qu'on le lave encore à l'église? Hein? Ça signifie quoi ça? Et on ne le lave pas comme il faudrait. Vous voyez, il faut des rites qui plongent leurs racines dans leur spirituel. Mais s'il n'y a pas de rite, il n'y a pas de spirituel. Et souvent, les rabbins nous disent, et David Meyer ne cesse de me dire, « Ah, nous, on n'aime pas les raccourcis. Passez tout de suite au spirituel, ça ne va pas. » Et ils ont raison. Ils ont raison, parce que nous sommes des êtres de chair. Et donc tout ce qui est charnel, concret, humain, est essentiel. Hein, comme le dit Peggy, parce qu'ils n'ont pas le courage d'être de l'homme, ils croient qu'ils sont de Dieu. Mais Jésus lui-même a été homme. Et donc ces réalités matérielles et sensibles sont donatrices de sens. Chapitre 10 du premier livre des Chroniques jusqu'au deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, Israël uni. Intéressant. Donc, il y a l'humanité entière dans laquelle se trouve Israël qui a une expérience qui n'est pas... magnifique en tout point, l'espérance de la royauté, et qui a une avancée, parce que c'est justement sa vocation, elle est religieuse, elle est de type religieuse, monothéisme. Et ce monothéisme, à travers une Torah. Et cette Torah, c'est la vie de tous les jours. Et donc, le lieu de l'action divine, c'est la vie concrète. C'est le quotidien. Alors, Israël a été uni sous la royauté. Eh bien, on va réfléchir dans cette manière religieuse, dans cette perception, on va réfléchir sur la royauté. Et nous trouvons, voilà, chapitre 10, un modèle, un contre-modèle. Shaoul est un contre-modèle. Il n'est pas arrivé à une royauté juste, même s'il la poursuivait. Il n'est pas arrivé parce qu'il n'était pas fidèle au monothéisme. Il n'était pas fidèle à cette présence de Dieu et à l'alliance. Et donc le contre-modèle est Shaoul au chapitre 10 du premier livre des Chroniques. Et puis vous avez le modèle, David. Et David est vraiment regardé comme le fondateur du culte. C'est pas lui qui a construit le temple, non. Mais il est le véritable fondateur et animateur, hein, le psalmiste, si vous voulez. Le roi parfait. Et c'est lui qui a organisé le sacerdoce lévitique. Donc vous voyez l'image de la royauté. Royaume de Dieu, hein, déjà en train de se forger. Mais c'est lui qui a organisé le sacerdoce lévitique. Donc c'est un glissement de la royauté comme les autres nations vers une royauté en quelque sorte religieuse. Puis vous avez un deuxième modèle, c'est Salomon. Salomon le sage, avec une insistance tout à fait particulière, si vous relisez l'histoire de Salomon dans les Chroniques et à la lumière de l'histoire de Salomon dans le livre des Rois, c'est juste, hein, c'est lui qui a construit le temple. Mais voyez que le temple n'est plus uniquement la réalité matérielle, la maison de Dieu. C'est encore cela, bien sûr. Mais il y a une ouverture. Et si vous regardez par exemple la tronisation de la tente sacrée et de l'arche d'alliance dans ce qui n'est pas encore le temple, mais la tente sacrée, la tente du rendez-vous, vous verrez une grande différence entre la version du livre des rois et la version des chroniques. L'importance que prennent tout d'un coup les lévites, tout ça devient service religieux. Deux mentalités. Alors, au deuxième livre des rois, chapitre 10 au chapitre 28, donc une partie très importante, livre des chroniques. Bien qu'on reprenne évidemment en résumé l'histoire de David et l'histoire de Salomon, mais d'une manière tout à fait nouvelle. Salomon, donc la reconstruction du temple, vous trouvez cela au premier chapitre, du deuxième livre des chroniques, avec le transfert de l'arche d'alliance, le grand discours de Salomon au peuple, la dédicace. Et si vous regardez bien dans les marges, dans le premier livre ou deuxième livre des chroniques, vous verrez tout de suite là où il y a des parallèles dans le livre des rois et là où il n'y en a pas. Et la plupart du temps, là où il n'y en a pas, c'est lorsqu'on vous parle des lévites. On n'en parlait pas dans le premier cas, ils n'avaient pas beaucoup de place. Mais ils ont eu une place qui est devenue prépondérante dans ce cléricalisme qui était la manière de se faire valoir auprès de la cour perse, après l'exil. Et vous avez l'histoire de Salomon, et puis à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 28, on va vous parler non plus de l'Israël uni, grâce à ces deux modèles, David et Salomon, mais de l'Israël divisé. Ah, Israël est passé par une division. Une division qui tenait aux hommes. Et pourquoi les hommes se sont-ils divisés? Parce qu'ils n'avaient plus ce principe unificateur qui est la présence divine. Ils ne croyaient plus en l'alliance. Et ils mettaient l'essentiel de leur vie à l'extérieur de leur vie, plus à l'intérieur. Et alors, vous avez de nouveau un contre-modèle, chapitre 10 à 12, Roboam, et puis des figures contrastées, Abia, séparatiste, Josaphat, unificateur, Yoram, Ocosias, Athalie, et vous avez des gens qui soufflent le bon et le mauvais. Il y a de la perversion dans le monde, elle existe. Mais elle ne triomphe jamais. C'est toujours Dieu qui arrive à triompher à travers les difficultés. Il va même jusqu'à convertir l'impie Manassé. On souligne vraiment cette action divine au cœur même de la faute. Et vous avez donc des figures contrastées, Abia, Asa, Josaphat, puis Yoram, Ocosias, Athalie, ou bien Joas, qui a été sauvé du massacre d'Athalie, Amasias et Ozias, Yotam et Akaz. La division, elle existe dans les hommes. Elle n'existe pas dans le principe, ni de la royauté, ni du sacerdoce, elle existe dans les hommes. Et les hommes montrent un visage divisé. Et donc l'histoire d'Israël, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit divisée. Ce n'est pas une histoire idéale. C'est une histoire de la présence de Dieu libre, surabondante, gratuite, mais dans des hommes qui attirent toujours les choses à eux. Comment Dieu travaille avec la réalité humaine, sans forcer les libertés. Et alors, et là on en arrive, donc ceci c'est une réflexion sur l'histoire, hein, histoire humaine, généalogie, Israël uni, Israël a été uni grâce à Dieu, et donc où la royauté et le culte étaient mis ensemble, mais Israël a vécu une vie de division, et il se retrouve divisé. Une partie avait été en exil, une partie était restée dans la capitale, et on doit rétablir une unité à partir d'une division que l'on vit. Et sous des étrangers, les chefs ne sont plus des Israélites, les chefs sont des étrangers. On vit dans un monde étranger. Et qu'est-ce qu'on a à faire ? Ben, on a à montrer, à manifester par ce que l'on vit, que Dieu est présent. Faire le Kiddush Hashem, c'est-à-dire la sanctification du nom. Il faut que notre vie manifeste que Dieu existe à travers nos divisions, au-delà d'elles. Et donc, on se trouve devant un chantier. Reconstruire le temple, mais reconstruire le temple, c'est reconstruire un peuple uni par l'alliance de Dieu. Un peuple, mais qui vit la sanctification. Soyez saints, parce que moi je suis saint. Et il ne faut pas s'étonner que justement beaucoup de textes du livre des rois, des livres des chroniques, vous les retrouvez dans des formules peut-être plus sobres, plus typées, dans le Lévitique, qui a été constitué à cette époque-ci. Et donc de la loi sacerdotale du Lévitique. Et alors, comme le montre bien Abadi, du chapitre 29 au chapitre 36 du deuxième livre des Chroniques, vous avez une reprise des modèles. Mais le modèle n'est plus seulement David, ça c'était l'archétype, c'était au départ. Mais maintenant on va vous montrer que Ézéchias a été à son niveau un modèle. Mais pas parfait quand même, mais quand même un modèle. Vous avez toute l'histoire d'Ézéchias, reprise du chapitre 29 au chapitre 32. Puis, on va vous montrer deux contre-modèles, Manassé et Amon. Mais attention, même Manassé l'impie va finir par se convertir. Donc il y a une présence de Dieu qui traverse, comme la présence de Dieu a traversé l'exil et est capable de remettre en unité ceux qui sont venus de Babylone et ceux qui sont restés à Jérusalem. Et puis un deuxième modèle, puisqu'il y avait eu deux modèles au départ, il y avait eu David et Salomon, vous avez Ézéchias et Josias. Et de fait, ce sont des reprises de ce que vous voyez dans l'histoire deutéronomiste. Chapitre 34 à 35, c'est l'histoire de Josias. Puis, quatre contre-modèles pour montrer que les tensions continuent. Joachas, Joachim, Joachin, Zédécias. Mais, la finale, il faut bien que je vous en dise un mot parce qu'elle est essentielle. Je vous ai lu le texte de la finale du deuxième livre des rois en montrant comment Joachim, finalement, qui était prisonnier à Babylone, a été réhabilité et repris par le roi. Eh bien, ici à la fin, on ne vous parle pas de cette réhabilitation de Joachim. Mais, je vous lis la finale, la première année de Cyrus, on va être sauvé par un païen. Et toute cette dialectique est explicitée dans les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe. Hein. La première année de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole du Seigneur prononcée par Jérémie. Ah voilà un païen hein, qui suit Jérémie le prophète. Extraordinaire. Le Seigneur éveilla l'esprit de Cyrus. Le Seigneur est présent dans cette modernité, différente évidemment de l'histoire d'Israël. Roi de Perse, qui fit proclamer et même afficher dans tout son royaume, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Tiens, il parle exactement comme un prophète. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. Donc il y a une unification. Hein. Tous les peuples viendront finalement hein, découvrir la présence de Dieu à Jérusalem. Hein, c'est tout à fait de l'ordre des prophètes, ça. Hein. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem. Ça va loin. Hein. Vous voyez comment le Seigneur agit justement dans le païen. En Juda, mais à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, Kol Israël, voilà un mot qui revient, la totalité d'Israël, c'est un mot qui revient souvent dans le livre des Chroniques, et la totalité d'Israël, on perçoit subrepticement que ça signifie l'humanité entière. En tout cas, c'est vers là que ça va. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Et de fait, ce texte ressemble très fort à un texte que nous verrons encore après. C'est pratiquement la reprise de ce que vous verrez au début du livre d'Esdras. Il y a encore deux livres de la même compagnie, je veux dire de la même école, qui sont les livres d'Esdras et de Néhémie. Vous voyez, il y a à travers la manière dont ce texte est écrit, parce que souvent on dit oh, ce livre des chroniques c'est un simple doublé. C'est pas du tout un doublé. C'est une relecture des livres des rois à partir d'une autre perception des choses, où la royauté devient, je dirais, au service d'une présence divine. Mais d'une présence divine qui n'est pas seulement présence limitée à Jérusalem ou à Israël, mais qui est finalement présence universelle. Et cette perception est importante. Et sans cette perception et la sagesse qui va la reprendre, cette perception, il n'y a pas de Nouveau Testament possible. Et donc c'est une époque qui, bien qu'elle soit trop peu connue, c'est une époque qui est importante pour la réflexion intérieure d'Israël et pour son ouverture. Et cette ouverture vient justement parce qu'Israël a été déporté au milieu des nations. Donc nous verrons où ça mène tout ça, ce que nous avons encore à voir. Comment Esdras, Néhémie, et puis une autre difficulté qui va revenir, c'est-à-dire l'époque de la persécution hein, d'Antiochus IV Épiphane avec les Maccabées. Et il nous faudra encore voir qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette histoire pour notre quotidien. Voilà.